La femme de cire, de René de Pongest. Partie 1. Un cadavre anonyme. Chapitre 1. Un bal chez Ada Ricard. Un soir de l'hiver de 1805, il y avait un grand bal au numéro 17 de la 23e rue Est. Ce mode de désignation des rues indique assez que nous sommes dans l'Amérique du Nord, où, sans doute par mesure de précaution contre les réactions politiques, on numérote presque toujours les voies de communication au lieu de leur donner des noms de personnages qui, célèbres et bienfaiteurs de l'humanité aujourd'hui, pourraient être voués aux gémonies par leurs remplaçants de demain. Nous ajouterons, pour préciser davantage encore, que notre drame se passe à New York, la capitale commerciale de cette gigantesque république fédérative que les démocrates nous citent comme un modèle d'institution libérale, bien qu'on y pende ceux qui rêvent l'émancipation des esclaves et que les Noirs, les hommes de couleur eux-mêmes, ne puissent s'asseoir ni au théâtre ni dans les voitures publiques, là où se placent les Blancs. Mais aux États-Unis, contrée par excellence des contradictions sociales, politiques et religieuses, pays où vivent côte à côte toutes les civilisations et toutes les barbaries, où la faillite est une institution et le revolver un article du code, où on se marie le soir pour divorcer 24 heures plus tard, où un dentiste se fait à son gré chef de secte ou banquier, où la population se double tous les 20 ans depuis un siècle, où on met en action des lacs de pétrole et des sources de lait condensé, où il paraît quotidiennement un milliard d'exemplaires de journaux, c'est-à-dire 30 et 35 exemplaires par habitant, où le plus ignare se proclame impunément jurisconsulte ou médecin, où la vie humaine n'est rien, mais l'argent tout, où la fin justifie les moyens, où la jeune fille présente à son père l'homme qu'elle a épousé, alors même que le chef de famille n'a jamais entendu prononcer le nom de son gendre, où le flirtage est l'école de la prostitution. Mais aux États-Unis, disons-nous, terre promise des aventuriers et des déclassés, on ne demande à nul d'où il vient, ni ce qu'il a été. On ne s'informe que de ce qu'il a et de ce qu'il veut être. À ce titre, les démagogues ont sans raison pour une d'en admirer les coutumes et les mœurs. C'est donc à New York que nous conduisons cette fois nos lecteurs au numéro 17 de la 23e rue, chez Miss Ada Ricard, la nouvelle étoile du monde galant de la grande cité américaine. Mais étoile dont les profanes ne connaissaient l'éclat que par reflet, car son existence était enveloppée de mystères et on ne la rencontrait jamais dans aucun lieu public. Tout ce qu'on savait du passé d'Ada Ricard, c'est qu'elle avait été mariée à un riche négociant de Buffalo, James Copson, personnage ivrogne et brutal, dont elle était parvenue à secouer le joug grâce à la cour des divorces, mais qui lui avait laissé certains souvenirs ineffaçables de sa tendresse. Copson, en effet, qui adorait sa femme et en était fort jaloux, l'avait un jour si maltraitée qu'elle n'était sortie de cette scène violente qu'avec une oreille déchirée et une dent de moins. Ada Ricard cachait, il est vrai, sous un gros diamant, la cicatrice de sa mignonne oreille. Mais elle avait toujours refusé de remplacer la perle qui manquait à l'écrin de ses lèvres roses. « De cette façon, disait-elle, je n'oublierai jamais ce que peut coûter un mari. Et lorsque quelque folle ambition ou quelque sot amour serait sur le point de me faire perdre la mémoire, il me suffira de m'adresser à moi-même un sourire dans une glace pour me rappeler le passé. » Armée de la sorte contre ses propres faiblesses, la jeune femme s'était lancée hardiment dans la vie galante. Riche de 10 à 12 000 dollars que son mari avait dû lui restituer, elle avait débuté par les dépenser jusqu'au dernier, pour s'installer luxueusement, sachant bien que les hommes, dans leur orgueil, n'attachent pas moins de prix à la splendeur du temple qu'au charme de l'idole. Cela fait, n'ayant plus pour tout capital que sa beauté, elle s'était bien gardée d'en disposer en faveur du premier venu. Elle avait attendu patiemment, se montrant à peine, refusant absolument tous les hommages, jusqu'au jour où un certain Thomas Cornhill, propriétaire d'inépuisables puits de pétrole, lui avait paru digne de son cœur. Malheureusement, moins de 3 mois après ce mariage de la main gauche, Thomas Cornhill avait passé subitement de vie à trépas, et Miss Ada s'était trouvée veuve, avec 100 000 dollars d'argent comptant, il est vrai, et une somme égale en bijoux, tant elle avait bien employé son temps. Ada porta le deuil de ce premier amant pendant quelques semaines. Puis, d'un esprit essentiellement pratique, elle renouvela le personnel de sa maison avant d'accepter pour nouveau seigneur et maître Willie Saunders, richissime fabricant de biscuits qui s'était immédiatement présentée pour succéder au pauvre Cornhill. Elle remplaça même sa femme de chambre par une belle et intelligente fille, Mary Thompson, qui était arrivée de l'Ouest peu de temps après la mort de Cornhill, ne connaissait personne à New York, ni rien des anciennes amours de l'ex-Madame Gobson, et s'était présentée, juste à point, au moment où la place était vacante. Lorsque Willie Saunders apprit que ses hommages et ses banknotes étaient enfin agréés, il entra donc dans une maison relativement vierge, ce qui le flatta beaucoup. C'était un gros homme d'une cinquantaine d'années, sensible, simple et vaniteux. Il adorait vraiment Ada, et s'en crut bientôt tendrement aimé. Aussi, tout à ses caprices, n'avait-il fait quelques observations que pour la forme, lorsque sa maîtresse lui avait parlé du bal qu'elle voulait donner. D'abord, c'était là une fête qu'autorisaient médiocrement les mœurs américaines. De plus, Saunders était fort jaloux. Il savait la jeune femme poursuivie par mains soupirants, surtout par un certain Edward Forster, colonel de l'armée fédérale et l'un des plus séduisants gentlemen du high life new-yorkais. Or, si convaincu que voulut être le brave marchand de biscuits de l'amour et de la fidélité d'Ada, il supposait naturellement que ses adorateurs, Forster tout le premier, profiteraient de la soirée pour se rapprocher d'elle plus qu'il ne le désirait, et cela le troublait fort. Mais la jolie pécheresse s'y prit si adroitement que le gros Saunders ne résista pas longtemps. C'était d'ailleurs une merveilleuse fille, et le millionnaire bourgeois avait affaire à forte partie. Grande, admirablement campée sur les hanches, blonde, avec de grands yeux d'un bleu d'acier, des pieds et des mains d'enfant, une bouche sensuelle et rieuse, effrontée et ne craignant rien, Ada Ricard était bien faite pour plaire à ces acheteurs d'amour qui, de l'autre côté de l'océan, pas plus qu'en Europe, n'ont de temps à perdre en marivaudage. Une seule chose inquiétait parfois la jeune femme au milieu de sa nouvelle existence. C'était le souvenir de son ex-mari. Ayant gardé mémoire de ses brutales amours et de sa jalousie, elle ne se rappelait pas sans terreur qu'il avait juré de se venger de son abandon. Cependant, depuis le règlement de ses comptes, elle n'avait plus entendu parler de lui. Ses amis de Buffalo eux-mêmes ne savaient trop ce qu'il était devenu. Un beau matin, il avait réalisé sa fortune et s'était dirigé vers l'ouest. Les dernières nouvelles qu'on en avait eues étaient datées de San Francisco, où il vivait, disait-on, dans le plus grand désordre, courant les tripots et les mauvais lieux, cherchant bien évidemment à s'étourdir, à oublier. Ada Ricard, qui tenait du brave Saunders ses renseignements, était donc dans la quiétude la plus parfaite. Aussi, jamais n'avait-elle été plus gaie ni plus séduisante que ce soir-là où elle recevait ses invités. Le bal de la courtisane étant travesti et masqué, maintes femmes du vrai monde s'y étaient hasardées afin de voir de près cette mystérieuse et dangereuse beauté qui menaçait de coûter à chacune d'elles un mari ou un amant. Vers 11 heures, les salons de l'ex-mistress Gobson présentaient un coup d'œil vraiment pittoresque. Toutes les époques, toutes les classes de la société, toutes les légendes y avaient leurs représentants. Depuis les compagnons d'armes de Christophe Colomb jusqu'aux trappeurs du Far West, depuis Méphistophélès jusqu'à l'arlequin vénitien. Du côté des femmes, c'était un chatoiement de dominos de toutes les couleurs et un éblouissement de pierreries. Ada Ricard portait, elle, un splendide costume d'indienne du temps de la conquête espagnole. Elle avait aux oreilles des diamants de $10,000, au cou un triple collier de perles d'une valeur au moins égale, et aux bras ainsi qu'aux chevilles d'énormes bracelets d'or massif. Tous ces hommes, qui la connaissaient à peine de vue, et toutes ces femmes qui en avaient tant entendu parler, la dévoraient littéralement du regard, et l'admiraient. Saunders, à qui cette fête allait coûter $5,000 ou $6,000, ne quittait pas sa maîtresse des yeux. Absolument grotesque sous l'uniforme d'un Highlander, il tentait à chaque instant de se rapprocher d'elle. Mais Ada lui rappelait d'un mot, d'un geste ou d'un coup d'œil qu'elle entendait être entièrement à ses invités pendant toute la nuit. Et le gros homme s'éloignait docilement en poussant un soupir auquel répondait charitablement par des éclats de rire ceux de ses amis qui étaient au courant de ses faiblesses. Assez calme pendant 2 ou 3 heures, le bal devint ensuite fort animé, et la gaieté se fit bruyante, comme cela arrive trop souvent dans les réunions américaines, où, si épurées qu'elles puissent être, se glissent toujours les gens grossiers et communs auxquels l'argent donne partout droit de cité dans ce pays. Bientôt, les buffets furent mis au pillage, le champagne coula à flot, quelques masques tombèrent, et Miss Ada Ricard, renonçant volontiers à rappeler ses invités au bon ton, car tout ce bruit ne pouvait faire que le plus grand honneur à sa réputation, ne songea qu'à s'éloigner autant que possible de la bagarre. Elle venait de prendre le bras de l'un de ses adorateurs au lieu de celui que l'infortuné Saunders lui avait offert, et elle se dirigeait vers un petit boudoir où quelques gens raisonnables s'étaient réfugiés lorsqu'un formidable hurrah fit tourner toutes les têtes du côté de la porte du grand salon. C'était l'entrée de trois Indiens Sioux qui avaient soulevé l'enthousiasme de la foule. Ils méritaient d'ailleurs cet accueil, car ils étaient réellement superbes dans leur costume d'une horrible vérité. Rien n'y manquait, ni la coiffure de plumes, ni le tomahawk, ni le couteau à scalper, ni même à la ceinture, une demi-douzaine de longues chevelures, trophées sinistres des derniers combats. Adarikar revint sur ses pas et joignit ses applaudissements à ceux de ses hôtes. Puis, comme ces derniers, elle s'efforça de reconnaître ceux qui avaient choisi ce curieux déguisement. Mais elle n'y parvint pas. Se souciant peu, sans doute, de se tatouer le visage, les trois mystérieux personnages portaient des masques qui cachaient complètement leurs traits. Et à toutes les questions qu'on leur adressait, ils ne répondaient que par des cris et des exclamations gutturales qui devaient transformer tout à fait le timbre de leur voix. Après s'être ouvert un passage à travers la foule, ils parvinrent auprès de la maîtresse de la maison, et l'isolant de l'ami qui l'accompagnait, ils se mirent à décrire autour d'elle une ronde fantastique qui peu à peu la rapprocha du vestibule du grand escalier. Supposant, comme tout le monde, que les Indiens Sioux étaient trois soupirants, Adarikar prenait gaiement leurs contorsions et leurs danses, et elle fut la première à éclater de rire lorsque le plus grand des trois masques la saisit dans ses bras et, la soulevant ainsi qu'il l'eût fait d'un enfant, l'emporta jusque sur le seuil de la porte. Placés devant le ravisseur, ses deux compagnons avaient entonné un chant de guerre et faisaient tourner leur tomahawk comme pour protéger sa fuite. On eût dit un grand chef enlevant sa fiancée, selon la coutume des Indiens des plaines. C'était là une plaisanterie si complètement américaine que la foule l'accompagnait de bravos retentissants. Soudain, le guerrier qui portait la jeune femme fit volte-face et, franchissant d'un bond l'escalier, s'élança sur le pas de la porte de l'hôtel, ouverte à deux battants, puis de là, dans un splendide landau qui stationnait devant la maison. Les deux autres Indiens qui l'avaient suivi s'étaient hissés rapidement sur le siège, et la voiture dont le cocher sans doute avait des ordres était aussitôt parti au triple galop de son attelage. Cet enlèvement s'était si rapidement exécuté que, lors même qu'on eût voulu s'y opposer, personne n'aurait eu le temps de le faire. Les invités d'Adarikar n'y avaient pas songé, d'ailleurs, sauf le malheureux Saunders, dont la jalousie, toujours en éveil, trouvait fort inconvenante cette conduite des trois masques. Aussi avait-il tenté de se rapprocher de sa maîtresse, mais ses amis eux-mêmes s'y étaient opposés, malgré ses grotesques supplications. Et lorsque la jeune femme avait disparu dans les bras de l'Indien, on s'était précipité sur le balcon de l'hôtel où l'enthousiasme était devenu du délire au départ de l'équipage. Un gigantesque hurrah avait couvert l'éclat de rire argentin qu'avait lancé Misada en se sentant enveloppé par la pelisse de fourrure qu'un des Sioux lui avait jetée sur les épaules. Et l'infortuné fabricant de biscuits, arraché du balcon, était aussitôt devenu le pivot d'une ronde des plus comiques, au milieu du salon de celle qu'on venait de lui enlever si hardiment. Ce que personne n'avait entendu, c'est le cri de stupéfaction, ou d'épouvante, jeté par Miss Adarikar au moment où la voiture qui l'emportait s'était ébranlée sur le pavé de la 23e rue.